Pour le dernier épisode de cette série, je suis allée rencontrer Fia Ménard dans un lieu qu'elle affectionne particulièrement. La MC 93, la maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, où elle était accueillie ce soir-là pour y présenter un spectacle. Comment vous parler de Fia ? C'est une artiste engagée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses spectacles sont présentés dans le monde entier. Elle est à la fois scénographe, plasticienne, performeuse, metteuse en scène et chorégraphe. Et je crois qu'elle envisage la scène comme un endroit de transformation de la matière, d'elle-même et de la société. Dans ses dernières pièces, Fia s'attaque aux symboles de la démocratie et du patriarcat. Je me souviens d'un de ses spectacles que j'ai découvert un été au Festival d'Avignon. Je me souviens de 7 femmes sur scène, de leurs corps oppressés et enfermés dans une boîte, dans un espace qui se réduisait sous elles d'un mécanisme implacable. Je me souviens de femmes insoumises. Pour cette création, on pouvait lire sur la note d'intention de Fia « Aujourd'hui, j'ai besoin de vous confier à un rituel que je nomme saison sèche. Celui d'une danse de femmes, mais pas seulement, à qui je demande de défier le pouvoir patriarcal qui semble immuable. Un parcours initiatique par l'invention d'un corps, d'avatar transgenre capable d'affronter un pouvoir que ces murs blancs semblent protéger. Tout peut nous sembler immuable, et pourtant, je vous le dis, la danse, la musique, le théâtre, la poésie sont les rituels de nos combats en devenir. Je suis Marion Coutel, vous écoutez Non ma fille, vous n'irez pas danser, un podcast de la Maison de la Danse de Lyon, épisode 6.
Eh bien, donc je m'appelle Fia Ménard, je suis artiste dit indiscipliné ou indisciplinaire, j'ai 52 ans, je viens d'un milieu ouvrier, pas du tout un milieu touché par l'art, absolument pas. J'ai plutôt été dans un milieu éclairé, mais qui était beaucoup plus ouvert sur le fait d'aller entre amis, entre personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, faire des balades, faire des activités plutôt un peu sportives. Le seul souvenir que j'ai de mon entrée au théâtre, c'est celle d'être au collège, d'être allé voir un Molière comme tout le monde. Ça n'a pas fait le déclencheur qu'il aurait fallu ou peut-être espéré à ce moment-là. Il a fallu attendre assez longtemps. À l'époque, je vis avec mes parents à Redon, donc dans cette petite ville coincée entre Nantes, Saint-Nazaire et Rennes. C'est une fois que j'ai passé mon bac que je viens à Nantes, que je me déplace à Nantes pour suivre des études, pour fabriquer des instruments de chirurgie, que je me retrouve pour la première fois déjà à une pratique qui est celle de la jonglerie à l'époque. Et donc, j'apprends à jongler. C'est une pratique à l'époque que je ne considère pas du tout comme artistique, mais plutôt une forme d'émancipation de mon corps, comme une pratique sportive. Sauf que j'habite à ce moment-là juste à côté de ce qui va devenir le lieu unique, ce qu'on appelait le CRDC, Centre de Recherche et de Développement Culturel, et qui m'amène à être pour la première fois, parce que je vais jongler dans une association de jonglage qui s'appelle Archibald, qui se retrouve plusieurs fois de la semaine. Je fais des rencontres avec des personnes qui me disent « Tiens, il y a tel spectacle, t'as pas envie de venir avec nous ?» Et donc, je vais au théâtre en suivant des personnes. Et à ce moment-là, je vois en effet pas mal de danse. Et ce qui sera révélateur pour moi, c'est de voir le travail de Jérôme Thomas, donc jongleur, chorégraphe, qui travaille sur scène, pas du tout dans le cirque à ce moment-là, mais vraiment dans une vision de la jonglerie comme une pratique scénique très chorégraphique, très théâtrale. Et ce qui fait le déclencheur pour moi de vraiment commencer à m'intéresser à une autre forme de la pratique de la jonglerie, qui est sa pratique artistique. Et c'est à partir de là où je change mon emploi du temps pour faire des cours de danse, prendre des cours de mime, des cours de théâtre, tout ce que je trouve, d'arts martiaux, de tout ce qui va me permettre finalement de me réapproprier mon corps. À l'époque, je m'appelle encore Philippe Ménard, je suis encore un jeune garçon, jeune homme, plein de questions, d'interrogations. Et à partir de là, voilà, c'est le moment où finalement la rencontre avec Jérôme Thomas va déclencher vraiment un désir de savoir pratiquer autre chose et de m'intéresser beaucoup plus à la possibilité qu'offre le spectacle. Peut-être moins l'art encore, Il faudra quelques années encore pour vraiment que je comprenne la puissance de l'art et finalement l'intérêt que j'ai pour cette question. J'en décide pas vraiment de faire mon métier. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai mis très longtemps à réaliser que j'allais gagner ma vie avec ça ou que je gagnais ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à gagner ma vie et c'est là où je m'en suis rendu compte que finalement, parce que je gagnais ma vie en étant sur scène, en jonglant, en faisant des choses, que je passais au statut de professionnel. Je le suis parce que, voilà, au moment où je rencontre Jérôme Thomas, à l'issue d'un stage à Toulouse, donc c'est en 1991, lui me fait une proposition assez dingue, c'est-à-dire de devenir son étudiant. À l'époque, je suis quand même très loin de comprendre ce que ça veut dire. À l'époque, je suis même plutôt coincé. Faut pas oublier qu'il y a une histoire un peu particulière. J'étais encore un garçon. Le service militaire était obligatoire. J'étais donc coincé aussi face à des obligations de cet ordre-là. Et à partir de là, j'ai commencé une histoire qui va durer quasiment jusqu'en 2002 de route avec Jérôme Thomas, qui va me faire rencontrer des chorégraphes, des metteurs en scène, des marionnettistes, des gens très divers, des musiciens, et qui vont me former à leur endroit, à leur regard, à leur écoute. Et en même temps, ben, je joue sur scène. Sauf que je joue sur scène aussi à des endroits très particuliers, puisque je dis toujours que avant de monter sur un plateau en France, j'ai commencé par monter sur des plateaux au Pakistan, au Laos, au Vietnam, au Bangladesh, en Afrique. Et que donc j'ai été aussi formé finalement à une autre approche de la scène, très loin de celle qu'on peut connaître en France. Et je crois que c'est aussi ce qui a créé en moi aussi une très grande particularité de l'écriture, de considérer le spectateur pas comme on l'a ici, sage, docile, assis, à écouter. J'ai connu mes premiers théâtres étaient bruyants, sans silence, des fois sans noir salle, donc avec des choses qui vont nourrir un regard très particulier, je crois. Sont venus se greffer aussi une autre chose, c'est que ça fait déjà, alors à ce moment-là, une dizaine d'années que je suis spectatrice et qu'en tant que spectatrice, j'ai des œuvres dans la tête qui me marquent et des artistes qui me marquent. Ce que je veux dire, Maggie Marin, pour moi, et je sais, ma mère, quelque part spirituelle, dans le sens où les premières pièces qui me déclenchent une relation de désir d'aller au théâtre, d'aller voir de la danse, c'est Maggie. Ce sont aussi les Skis à l'époque, Bouvier au Badia, je me souviens très bien de Welcome to Paradise. Ça va être aussi finalement des rencontres avec la culture américaine, Lucinda Childs, la rencontre avec les œuvres, je dirais toute la chorégraphie belge à l'époque qu'on va découvrir avec Alain Platel. Pour moi, Alain Platel reste Yates of Bach ou Bernadette qui vont être des déclencheurs dingues. Donc, à partir de là, bah, l'enclenchement suivant, c'est 1998, lorsque je crée la compagnie Non Nova. Et ça, c'est vraiment le déclencheur d'un début, d'une rencontre avec quelqu'un à la production, où tout de suite, on sent qu'on a du potentiel à travailler ensemble. Mon premier solo, Ascenseur, Fantasmagorie pour élever les gens, les fardeaux, en 2001, qui sera peut-être aussi une porte d'entrée où... on m'a connu interprète chez Hervé Diasnas, chez Jérôme Thomas, et puis d'un seul coup, on me découvre pour la première fois peut-être autrice, en tout cas auteur encore à l'époque. Hein. Ça va déclencher aussi le fait de commencer à beaucoup tourner, d'être connu comme interprète, mais aussi à un moment à la première forme d'écriture. On m'a beaucoup fait confiance à ce moment-là. Je deviens artiste associé à une scène nationale, je deviens conventionné par l'État... je commence à avoir une reconnaissance institutionnelle qui fait que je suis implanté. Et je décide d'écrire un certain nombre de pièces que je dirais aujourd'hui jusqu'en 2007. Entre 2001-2007, je vais écrire un certain nombre de pièces qu'aujourd'hui j'étudie souvent avec des élèves en école en disant c'est fou, il y avait tout déjà, tout ce que je voulais écrire, auquel je pensais. Mais d'une maladresse incroyable, des pièces insupportables à regarder, incompréhensibles, maladroites. Et donc arrive un certain nombre de pièces, aussi un parcours encore de spectatrice, jusqu'à la nécessité de rompre avec une situation que je ne supporte plus, qui est que Je sais que j'ai une forme de virtuosité de la jonglerie. J'ai une forme de virtuosité qui fait qu'on demande ma virtuosité et que cette virtuosité a un nom, elle s'appelle Philippe Ménard. Et que plus cette virtuosité s'affiche, plus on voit le garçon et que je ne peux plus vivre cette relation parce que j'ai besoin d'exister pour ce que je suis, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui se pose la question de ce qu'elle est. À ce moment-là, je décide de faire ce qu'on va appeler, même si j'aime pas le mot, coming out. Et donc, je décide de faire ce parcours de genre et de dire, voilà, j'ai essayé d'être un homme, mais je crois pas que je sois un homme. Je vais donc rentrer dans une phase qu'on va peut-être appeler monstrueuse, qui est celle de la transidentité. Et je décide, pour accompagner ce projet-là, d'écrire une pièce où je vais contredire ma virtuosité en travaillant avec de la glace. Et donc, je vais danser et jongler avec de la glace, exposer mon corps au danger, prendre une position qui va me faire comprendre que depuis des années, ma virtuosité, elle ne fonctionnait pas pour moi, tout simplement parce que on regardait la virtuosité de la circassienne, de celle qui savait faire des choses avec des objets. Mais les objets n'appartiennent qu'à la jongleuse et que la matière appartient à tout le monde et que la matière va devenir une sorte de langue, de langage commun, où je me dis que la glace, chacun a sa relation à la glace. Et donc, il y a une forme de dialogue nouveau que je crée avec la matière, où le corps est exposé à la matière, le corps lutte, le corps se débat. Il essaye d'être en questionnement sur pourquoi il est tellement soumis, pourquoi il voudrait être dominant, pourquoi il voudrait être fort et pourquoi il a tant de faiblesses. Et donc, c'est le début de ce que j'ai appelé le cycle ICE, injonglabilité complémentaire des éléments, qui est une recherche où, d'un seul coup, je sors de la jonglerie telle répertoriée. Il n'y a plus de massue, il n'y a plus de balle, il n'y a plus d'anneau, il n'y a plus de diabolo, il n'y a plus rien de tout ça. Mais il y a une écriture dramaturgique où la matière est l'élément qui va créer une sorte de lien entre le spectateur et moi, et où les sujets, ça y est, je sais ce que j'ai à dire. Est-ce que j'ai à faire ? Et aujourd'hui, c'est le chemin que je prends et que je continue. Ça veut dire qu'au moment où j'ai fait mon coming out, déjà et d'une avant, j'avais commencé à faire des pièces où j'étais sorti du registre qui était que je ne cherchais pas à plaire. C'est-à-dire que je n'étais pas dans la question de la séduction. Et que j'ai commencé aussi cette radicalité qui fait que PPP avait une très grande violence. Parce qu'en effet, vous voyez un corps sur scène, dans de la glace, en dessous d'un plafond de boules de glace, qui peut la tuer. Ça repose une question très fondamentale du théâtre. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Une tentative de suicide ? Une évocation de l'épée de Damoclès ? Une souffrance qu'on va devoir partager ? Et en même temps, une souffrance qui n'est pas finalement à l'intérieur. Je racontais la possibilité, ou je donnais la possibilité aux spectateurs de savoir ce que ça voulait dire de se mettre en danger. De se mettre en danger en se mettant dans une situation où la société regarderait la personne, la considérerait dans ce qu'on appellerait le monstre ou la folie. Et donc, pour moi, il était important de trouver cet élément qui allait dire « je ne vais pas en faire un sujet de séduction ». Je veux dire, il y a 15 ans de ça, traiter de la question de la transidentité. On parlait à l'époque de transsexuels et on faisait des émissions le soir, tard, à la télé, où on était des objets qui faisaient de l'audimat, parce que c'était, on parlait des tabous, on parlait des monstres, et on montrait des monstres. Je vais dire, c'est que moi, je prenais le parti pris que la pièce permettait à chacun de se sentir à ma place. Et ça, je pense que c'était très compliqué pour des directions, pour certaines directions, hein, faut considérer que, voilà, ce qui est normal que tous ne soient pas d'accord. C'est que ça demandait une relation au spectateur qui n'était pas douce, qui n'était pas la beauté de la jonglerie, qui n'était pas la magie de la jonglerie, mais qui était la fascination de l'endroit et en même temps la peur de la scène. Et donc, qui faisait aussi une très grande empathie. Ce que je veux dire, je terminais ce spectacle, PPP, pendant 10 ans où j'ai joué cette pièce qui a continué avec ma transition. Le spectacle se terminait, il y avait toujours des spectateurs énormément qui restaient dans le hall de théâtre qui pour me demander si j'allais bien, pour toucher mes mains, pour savoir si j'avais mal, et qu'il y avait quelque chose qui intervenait à ce moment-là. Donc, je veux dire, la violence de la profession, elle est que, bien sûr, aujourd'hui, je vois que je leur ai posé un cas de figure particulier. C'est comment, quelle étiquette mettre sur ce type de performance, sachant que on est en effet dans l'acte chorégraphique performatif et en même temps dans un acte de jonglerie et qu'en même temps comment on va traiter de ce sujet-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de peur sur le fait de ne pas savoir comment définir que plutôt que ma question d'identité. La question d'identité, après bien sûr la violence, a été qu'il a fallu le temps que, mais finalement aujourd'hui je le sais, c'est le temps que les personnes oublient la rencontre qu'ils avaient faite avec Philippe Ménard pour accepter qu'aujourd'hui ils avaient Philia Ménard devant eux. Et que Philia était cette femme qui finalement apparaissait au grand jour, que ça leur permettait de comprendre aussi beaucoup de choses qu'ils avaient vues dans mes pièces précédentes, et que l'écriture que j'allais proposer, ben, à ce moment-là, elle s'est beaucoup simplifiée, ce que je veux dire, mes écritures sont très simples, hein. Mais par contre, elles sont radicales.
Et pour ce dernier épisode, je suis allée voir mon directeur, Thiago Guedes, qui a pris ses fonctions en septembre 2022, à la tête de la Maison et de la Biennale de la Danse de Lyon. Je lui ai demandé de me partager sa vision. De quel théâtre il rêve ?
Très jeune, j'ai commencé à me connecter avec l'art, à la musique. Donc j'étais dans une école de musique, j'ai appris le piano et tout qui orbite autour du piano. Le chant, la chorale, toutes les disciplines un peu aussi plus techniques par rapport à la musique, l'acoustique et tout ça. Et donc j'étais vraiment dans un chemin pour devenir musicien en fait. Donc j'ai fait entre 8 ans et 16 ans, ma discipline artistique c'était la musique. Et à 16 ans, donc j'ai eu la possibilité de faire un bac art dans mon lycée où on pouvait choisir soit des arts plastiques, des arts visuels, soit des arts vivants, la danse et le théâtre. Et moi, j'ai décidé de faire des arts vivants, mais avec curiosité, hein, j'avais pas trop, je connaissais pas trop, mais pour moi, ça m'intriguait. Et donc, et c'était à ce moment-là que, entre la musique et les arts vivants, il fallait décider, parce que c'était trop, en fait. Entre tout ce qu'il fallait faire au lycée, la danse et le théâtre et la musique, et un moment où, au conservatoire, où j'étais de musique, mes professeurs et professeuses disaient, bah, là, il faut vraiment choisir, si tu veux devenir un musicien, il faut vraiment faire des choix très concrets, parce qu'il y avait un rapport aussi de méthode et de discipline avec la quantité d'heures qu'il faut dédier à la musique pour devenir un musicien de pratique. Donc, et c'était là qu'à 16 ans, j'ai décidé vraiment mettre la musique de côté et en parallèle à danser théâtre que j'avais dans le lycée, m'inscrire dans une école de danse aussi pour vraiment avoir un complément à ce qu'on faisait dans les lycées. Oui, tout ça quand j'avais 16 ans, dans une petite ville, pas loin de Lisbonne, aujourd'hui à 1 heure en voiture. Quand j'avais 16 ans, à 1 heure et demie de voiture de Lisbonne, une petite ville qui s'appelle Mind, c'est là où habite toute ma famille. Et donc, et voilà, j'ai vécu toute mon adolescence là-bas, au Portugal. Donc, quand j'étais à la fac, c'est l'École supérieure de danse de Lisbonne. Donc, en fait, c'est l'Institut polytechnique de Lisbonne qui a toutes les disciplines artistiques. Si tu veux devenir cinéaste, metteur en scène, chorégraphe, danseur, donc il a les 4 écoles artistiques connectées avec la fac. Et donc, à ce moment-là, pour moi, déjà, c'était un temps d'énorme découverte, parce qu'en fait, Il avait la fac de danse, la fac de théâtre, d'archi, de cinéma. C'était vraiment un vivier artistique très fort à Lisbonne. Et j'ai pu vraiment profiter, rencontrer des gens. Bah, d'ailleurs, des gens qui ont été des amis de toute la vie, hein, des amis que je garde de ce temps-là. J'ai commencé à faire pas mal des ateliers, des workshops, des masterclass hors l'université, en complément, parce que quand même l'université, elle était un peu, comment on dit, cloisonnée avec les profs de la fac et pas trop ouverts à l'extérieur. Et c'était en fait avec ce croisement avec ces artistes, des artistes phares, chorégraphes portugais très importants, que je me suis commencé à être intéressé, mais tout de suite dans la création. Pas vraiment pour devenir danseur, pour travailler comme danseur dans une compagnie avec les autres, mais cette idée de la création, comment tu peux vraiment créer des spectacles à toi, créer des récits, créer des univers artistiques spécifiques, et à ce moment avec un intérêt très très pluridisciplinaire. C'était toujours très hybride ce que je faisais, et à confluence de mes intérêts artistiques qui ont été toujours très variés en fait. Et en fait c'était ça, mais très rapidement j'ai commencé à faire mes projets à moi. Et donc, mon premier spectacle, c'était en 2002. C'était un solo qui s'appelait Un Solo. Et donc, c'était à partir de ce spectacle que très rapidement, j'ai commencé à circuler mon travail internationalement. Donc, j'avais 24 ans. Et pour moi, c'était aussi là, ce moment-là, dans une première expérience chorégraphique. Du coup, tout de suite, j'étais en train de présenter mon travail un peu partout. À voyager, tout seul, c'était un spectacle très portable. Je voyageais sans régisseur, sans rien, c'était moi et un sac à dos, vraiment. Donc c'était quelque chose vraiment un prolongement de moi-même. En fait, tout s'était un peu mélangé, quoi. Il n'y avait pas trop de division entre l'homme et l'artiste, quoi. Et c'était là que je me suis dit, bon, voilà, je vais continuer, ma recherche. Et au début de mon travail, vraiment une recherche à imaginer des spectacles pluridisciplinaires. Aujourd'hui, on peut dire vraiment comme ça, où le corps avait toujours une place principale, mais pas forcément un corps dansé, c'était un corps quotidien qui construit des univers très, très spécifiques. En fait, à un moment donné, j'étais invité à artiste associé dans un théâtre au nord de France, à Armentières, le Vivat d'Armentières. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'en fait, la directrice à l'époque, Eliane Diger, de ce théâtre, elle connaissait un peu mon travail. Et à un moment donné, elle m'a invité à être artiste associé. Moi, je dis OK, je savais pas trop qu'est-ce que c'était ça, hein, parce que ça n'existait pas au Portugal. Donc après, elle m'a expliqué. Donc voilà, c'est 3 ans d'accompagnement de ton travail. Donc on coproduit ton travail, on le fait circuler en région. Donc vraiment un travail de porosité. Et où j'ai passé beaucoup de temps de ma vie là-bas, dans cette ville un peu ouvrière au nord de France, mais à côté de Lille, une ville très qui bougeait beaucoup parce qu'elle venait d'être capitale européenne de la culture. Donc et tout ça pour moi c'était hyper excitant de collaborer avec quand même un théâtre intéressant, très militant, avec une programmation très intéressante, hein, dans une toute petite ville. C'était dans ce cadre-là, de ces 3 ans d'artiste associé, cette directrice m'a invité à imaginer une carte blanche, en fait. Une carte blanche de programmation. Donc, elle m'a dit, bah, Thiago, on aimerait bien que dans ces 3 ans, tu penses qu'on pense à un focus portugais avec des artistes que tu te sens complices, en fait. Tu peux inviter. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, en tant que directeur de la Maison de la Danse, donc je fais ça aussi avec nos artistes associés, c'était vraiment le même principe. Et donc, en fait, c'était ça, ma première expérience de programmation, d'imaginer comment tu peux penser aussi artistiquement en programmation. Et en fait, c'était à ce moment-là que j'avais la chance soit de continuer mon travail d'artiste en France, comme beaucoup des artistes non français qui sont en France, et ça, c'était vraiment sur la table, hein, de monter une association en France et voilà, et de continuer en France, ou entre France et Portugal. Ou retourner au Portugal, monter une association à moi et développer mon travail à partir de Portugal avec les connexions que j'avais déjà avec France, Belgique et tout ça. En parallèle, le travail de chorégraphe et le travail de programmateur. En imaginant un festival que j'ai monté, première édition en 2009, là où ma famille habitait. Donc un festival parti du principe que On doit vraiment imaginer des projets hors les grandes villes et proposer aussi à ses habitants de découvrir des spectacles qui sont un peu plus présentés dans les villes où il y a beaucoup plus de gens. Et je parle d'une ville de 2000 habitants. On a monté des festivals dans une toute petite ville. Et en même temps, commencer à continuer à faire mon travail. Mais c'est vrai que la place, la programmation, elle a pris un espace, un grand espace dans ma vie, dans ma tête. Donc, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup moins par rapport à mes projets artistiques. Et vraiment avoir l'intérêt vraiment de développer les projets artistiques et tout ce qu'il faut faire pour bien les développer, les dossiers, les candidatures, les rendez-vous, les contacts politiques et tout ça. Et voilà, et donc c'est ça que à partir de 2009, j'ai eu cette vie entre être artiste et être programmateur, d'abord avec le festival, après la région où j'ai monté le festival, donc ils m'ont invité à diriger le théâtre de cette région, que j'ai dirigé entre 2011 et 2014. Et en 2014, Porto, c'est la deuxième ville de Portugal, au nord de Portugal. Et ils ont ouvert une candidature pour diriger le théâtre municipal. Les théâtres municipaux, en fait, c'est deux théâtres qu'on a rassemblés dans une institution. Et donc, et là, j'imaginais tout un projet à présenter pour cette ville. Et donc là, c'était une autre phase. C'était là, à ce moment, que j'ai vraiment dit que donc j'arrête de faire mes projets à moi pour vraiment me concentrer à 100% dans le travail d'être programmateur, directeur d'institution. C'était un peu ça. C'était en 2014 et 2022, vraiment 8 ans. De développement d'un projet très politique à Porto, parce qu'en fait, les théâtres, ils étaient un peu fermés. Et en fait, il y avait une nouvelle municipalité avec un nouveau maire qui a décidé vraiment mettre la culture au centre de ses politiques publiques. Ce qu'il demandait à tous les candidats, c'était de faire un projet de rassemblement des deux théâtres qui existaient dans une seule institution, donc le théâtre municipal de Porto. Et donc, c'était ça. Mais moi, j'avais proposé tout de suite des autres couches. Imaginez aussi un festival de danse à l'échelle métropolitaine et imaginez aussi un centre de recherche artistique, chorégraphique, mais pas que, performance aussi. Donc, c'est 3 niveaux de projet qu'on a fait au fur et à mesure. Pendant 6 ans, on a monté ces projets. D'abord, le théâtre municipal, l'institution. Après, 2 ans après, le festival. Et 3-4 ans après, le centre de recherche, c'est une ancienne école primaire qu'on a complètement transformée en centre de recherche avec 4 studios, 2 appartements, vraiment un safe space pour la recherche contemporaine en création. Quand on a inauguré le centre de recherche, c'était le dernier projet, j'ai eu ce sentiment que tout ce que j'avais proposé faire, qu'on avait fait, en fait. On a construit tout un public, avec beaucoup d'artistes qui venaient, beaucoup de publics qui suivaient le projet. Et à un moment donné, donc j'avais un peu envie de me projeter un peu ailleurs. Donc j'étais très bien, mais en même temps un peu trop confortable aussi. Pour moi, c'était aussi important m'imaginer dans une expérience internationale, hors Portugal. Et donc, quand je vis passer l'annonce pour la direction de la Maison de la Danse et de la Biennale et les futurs ateliers de la danse, c'était ça aussi, c'était un appel à projet très riche et très multiforme. Déjà, ça faisait écho avec ce que j'avais construit à Porto, un théâtre, un festival, un centre de recherche. Et ça, c'était très intéressant. Et c'était comme si ici à Lyon, je pourrais le projeter, l'échelle que je l'avais fait à Porto. Je pouvais l'arriver un peu à une autre échelle à Lyon. Donc, moi, je dis, je perds rien. Donc, je me lançais à écrire le projet. Et voilà, me voici maintenant à Lyon, déjà depuis septembre 22.
Il est évident que le plateau, le lieu de la représentation, c'est un lieu génial pour ça. C'est un lieu... Ce que je veux dire, c'est que le lieu de la représentation, le théâtre... est le lieu du consentement par excellence et du contrat. Le contrat, c'est que le spectateur paye avec son ticket pour que l'artiste fasse quelque chose que le spectateur ne peut pas faire seul. Donc, l'artiste est là sans arrêt, il touche de l'argent pour mettre en distance ce qu'il est offrir d'autres identités sur scène pour faire que le spectateur puisse continuer à réfléchir, penser, regarder l'être humain, regarder la société, essayer de se poser des questions sur la société. Donc ça veut dire que c'est une chose que j'explique toujours. Dans une ville, il y a ce qui sert à administrer ce que nous sommes, donc toutes les administrations, les mairies, les écoles, les... voilà, on nous gère. Il y a les lieux de culte, où là, on va chercher des réponses. On a écrit des livres, alors on a des réponses. On a des prophètes qui ont écrit des réponses. Et le théâtre, qui est son pendant, c'est là où on va chercher les questions. Et les questions, on va les chercher à ce moment-là parce que le lieu du théâtre est dans le lieu, c'est le lieu qui a été, à travers les époques, qui est resté comme un endroit où on se met dans une relation de direct, dans une relation qui est de consentement, puisqu'il y a le contrat, et qu'à ce moment-là, on va pouvoir traiter de tous les sujets dans le côté pacifié, dans le côté distancié, et de pouvoir finalement s'intéresser à une sorte de prise de photo de la société, de le transformer sur scène, de jouer tous ces éléments-là, et donc aussi de pouvoir inverser les rôles, inverser les dominations. Ce que je veux dire, le début de saison 16 démarre par une insulte. J'arrive, moi, devant un rideau tiré, je descends avec un micro, et la première parole du spectacle démarre de ma bouche par une insulte à la salle qui dit « Je te claque la chatte ». Cette insulte, toutes les femmes qui sont dans l'assistance, toutes les spectatrices, savent très bien que cette insulte vaut pour toutes les insultes que toutes les femmes reçoivent régulièrement, avec questionnement. Mais pourquoi j'ai mérité ces insultes ? Et en même temps, dans la salle, il y a les hommes qui, eux, entendent cette insulte, se posent la question « Pourquoi je m'adresse, moi, femme, à eux, en leur donnant une insulte ?» Et eux, ils se posent la question « Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Est-ce que je suis coupable ? Est-ce que, et c'est là le sujet, c'est « Est-ce que je fais quelque chose pour arrêter ça ?» C'est le début de saison sèche. Donc, c'est aussi une inversion du plateau, c'est-à-dire une inversion du malaise. C'est que la première image que nous allons voir ensuite, ce sont ces sept femmes, jambes écartées comme si elles étaient encore dans les étriers d'une consultation gynécologique, qui est quand même le truc le moins agréable qu'on puisse vivre, et qui se retrouvent avant, confrontées à cette insulte, qui va faire que de toute façon, les hommes qui regardent ça ne peuvent pas regarder ça sous l'objet de la sexualité, et que les femmes qui le regardent dans le côté de l'humiliation. Et c'est extrêmement important de travailler à des états de conscience de cet ordre. Le théâtre est pour moi à cet endroit-là. Lorsque je fais un acte scénique, chorégraphique, mis en scène, je cherche sans arrêt à savoir à quel endroit je peux toucher le spectateur pour l'interroger sur ce sur quoi il ne travaille pas, mais dont il n'arrête pas de penser.
Alors, en tant que directeur, moi, je rêve vraiment d'un théâtre, et là, un théâtre quand même spécial, parce que c'est un théâtre où la danse et le corps est au centre. Donner la place à des autres récits, moins directs, plus universels aussi, parce que le langage du corps, elle est très universelle, il n'a pas la frontière de la langue. Et aussi, imaginer un théâtre très démocratique, où tous les gens peuvent venir découvrir des choses. Je rêve vraiment de ce théâtre où il y a des différentes portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée par la pratique, par la théorie, par ce qu'on voit, par ce qu'on discute aussi, mais où le mouvement et le corps est au centre. On a vraiment besoin d'un contrepoint à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Des choses très complexes, très compliquées, où le rôle de l'art, il est vraiment précieux. L'art, elle donne tout le temps un autre regard, une autre approche. Elle donne des autres mondes parallèles qu'on a besoin. Parce que sinon, des fois, c'est très, très dur, la réalité. Et on passe des moments très durs à beaucoup de niveaux à côté de nous, loin de nous, mais je sens qu'on passe des moments vachement compliqués. Et donc, les théâtres, pour moi, sont encore des endroits où on peut rêver, on peut inviter des artistes, tout le monde. On peut avoir des regards très différents de notre, de nous confronter avec des autres réalités. Et donc, moi, je suis un vrai militant pour le rôle de l'art et le rôle des institutions culturelles qui ont une responsabilité de ce contrepoint. Il y a un contrepoint qui peut être vraiment, après, utilisé de différentes façons. Le public, quand il vient à un théâtre, des fois, il vient pour se questionner, des fois, il vient pour se détendre, des fois, il vient pour découvrir, des fois, pour voir ce qu'il connaît déjà, mais quand même, un lieu qui rajoute quelque chose à la vie quotidienne. Et ça, je pense que c'est précieux. Ce sont vraiment des endroits, des terrains d'outans aussi. Dans un théâtre, une minute, ça peut être une heure, ça peut être une minute. Il y a aussi une question d'un temps que dans un théâtre, qu'on est dans une salle de théâtre, le temps du temps, en fait, c'est différent aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est ces endroits où la réalité, elle peut être suspendue et on peut être vraiment face à des autres réalités. Et ça, c'est exceptionnel. Travailler avec d'art et des artistes et dans un théâtre, c'est, il faut bien soigner ça et bien aussi, quand tu es directeur d'une institution, de comprendre la responsabilité que tu as avec tes choix aussi. Pourquoi tu choisis ça? Pourquoi tu choisis un artiste, pas un autre? Cette responsabilité des choix. À qui tu donnes visibilité? Et aussi, quels sont les sujets aussi et les récits que tu mets sur scène? En fait, tu as aussi avec tes choix, tu conditionnes le regard du public. Donc, c'est quoi la responsabilité? C'est une grosse responsabilité. Qu'est-ce que tu donnes à voir aussi? Et qui t'invite dans un temps où il faut vraiment veiller par la parité, des questions raciales, des questions aussi de visibilité géographique, en sachant que tu es au centre de l'Europe, quand même dans un contexte privilégié. Donc, et tout ça, c'est très intéressant. Ça fait qu'on le travaille, même avec tous les contraintes au travail, devient vraiment un plaisir. Et c'est ça aussi que je défends, que pour travailler dans le monde de l'art en général, il faut vraiment avoir plaisir autour de ce que tu fais. Quand tu parles au public, le public connecte beaucoup plus la danse avec les femmes. Très intéressant, ça. Pourtant, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup plus de hommes chorégraphes ont beaucoup plus de visibilité aux hommes chorégraphes. Si on constate ça, par exemple, s'il n'y a que 4 femmes qui dirigent des centres chorégraphiques nationaux, il faut dire, bon, comment donner visibilité à ces femmes dans tes programmations, dans une saison comme la Maison de la Danse, mais dans un festival aussi, qui doit vraiment veiller pour une question de, comment on dit, d'équilibre par rapport au genre. Mais après, moi, je pense que ce qu'il faut questionner aussi, c'est par rapport au choix. C'est pourquoi il n'y a que 4 femmes chorégraphes qui dirigent les salles chorégraphiques. Moi, je pense que aujourd'hui, ça ne se ferait pas une marche arrière. Hein. C'est quelque chose de très, très présent, ce constat de qu'il y a beaucoup moins de femmes. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment veiller à la présence de ces femmes dans la programmation, mais penser à comment on peut arriver à cet endroit-là. Parce qu'en fait, pour avoir, par exemple, dans une institution comme la Maison de la Danse, donner beaucoup plus de visibilité aux femmes, il faut qu'avant, qu'il y ait des capacités de production pour que les femmes puissent produire des spectacles, puis après rentrer dans la Maison de la Danse. Donc en fait, c'est vraiment, il faut vraiment, c'est pas seulement par rapport au choix, c'est par rapport aussi aux conditions que tu donnes à ces femmes pour produire. Et donc, et ça, quand je parlais tout à l'heure des responsabilités, c'est aussi de penser au moment de la distribution de l'argent, des coproductions. Par exemple, comment tu veilles. C'est pas seulement la présence dans la programmation, c'est aussi comment tu divises ton argent des coproductions. Et il faut pas oublier ça, parce que sinon, et des fois, c'est pas quelque chose que tu fais parce que t'es en train de penser, c'est des habitudes, quoi. C'est des habitudes, t'avances, t'as des artistes, t'as des coups de cœur, et comme ça, si tu penses pas à cet équilibre de genre, tu vas tomber toujours sur beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc ça, il faut cette alerte-là, parce que par exemple, à la Biennale de la Danse, là qu'on vient de passer, qu'on a fait en septembre 2023. On a vraiment veillé pour cet équilibre homme-femme, donc j'avais cette possibilité de le faire, aussi parce qu'on a des théâtres de différentes échelles. À la Maison de la Danse, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a beaucoup moins de spectacles grande échelle faits par des hommes et par des femmes. Pourquoi ? Parce que des hommes ont plus de conditions et des coproductions. Donc c'est pour ça que je dis que il faut vraiment il faut penser à ça du début quoi. Aussi avec cette idée de déconstruction, cette idée que certaines personnes ont encore hein, que je peux comprendre, et c'est là que la médiation c'est très important, de que la danse est une discipline très élitiste. Et moi, même si je comprends qu'elle peut être pensée comme ça, mais dans ma pratique de direction et mes pratiques aussi artistiques et de médiation, je pense qu'on doit vraiment travailler avec les équipes pour vraiment détruire cette idée de l'élitisme de la danse. Parce qu'en fait, la danse, en tant que discipline, elle est aussi un outil génial pour rapprocher des gens, parce que tous les gens dansent, même quand ils pensent pas qu'ils dansent pas. Parce qu'en fait, chez nous, si tu sors, si tu vas en boîte de nuit, si tu es dans un bar. Et en fait, quand tu commences à parler avec des gens un peu comme ça, j'ai ah non, non, mais moi, je danse pas. Oui, tous les gens ont du mouvement, tous les gens se connectent avec la danse. Aussi, la danse a un langage universel. Et ce qu'on peut faire autour, c'est très, très riche et deux fois plus simple, à mon avis, qu'avec des autres disciplines comme la musique abstraite ou la musique contemporaine ou même le théâtre, parce qu'il y a des fois il y a la question de la langue, de la traduction aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée que la danse, ça se découvre, qu'on est tout le temps, qu'on peut tout le temps ouvrir des différentes portes, qu'on travaille autour de la danse, et j'essaie de faire ça dans mes projets de programmation depuis toujours, en fait.
Pour les toutes dernières minutes du dernier épisode de cette série « Non, ma fille, vous n'irez pas danser », je laisse la parole à mes collègues, ceux qui font vivre cette maison de la danse depuis 44 ans maintenant. Je leur ai demandé, à eux aussi, de quel théâtre ils rêvent.
Oui, mais ça demande réflexion tout ça.
Ah, mais tu vois, si, ça fait pareil.
Mon théâtre rêvé, ça serait un théâtre ouvert à tous et au plus grand nombre.
Alors, moi je rêve d'un théâtre ouvert à tous, où chacun peut se sentir chez soi,
accessible pour tous.
Non, accessible pour tous, mais de façon facile.
Alors, je rêve d'un théâtre ouvert à tous.
Un théâtre ouvert à tous ?
Ben, je rêve d'un théâtre où il y a toujours plein de monde, avec une diversité de gens, une diversité de public qui correspondent à la réalité de ce territoire.
Alors, un théâtre ouvert à tous, pour moi, c'est vraiment un lieu de vie, de rencontres, d'échanges, de découvertes, où on peut s'instruire, ou pas forcément, où on peut découvrir des grandes formes. Et l'idéal, pour que tous les publics y aient accès, il faut qu'il y ait des tarifs qui soient peu élevés.
Ben, je rêve d'un théâtre ouvert à toutes et tous.
Un théâtre qui soit ouvert et accessible à tous et qui aille vers l'extérieur, chercher les personnes, même celles qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui ne se sentent pas légitimes de rentrer dans un théâtre.
Je rêve d'un théâtre ouvert à tous.
Mon théâtre rêvé serait celui d'un théâtre archibondé, où il serait simple d'y entrer, d'y rester, d'y revenir.
Je rêve d'un théâtre inclusif, où tous les types de publics se mêleraient, où les classes populaires seraient un peu plus représentées, avec beaucoup plus de représentations gratuites et plein de spectacles jeunes publics.
Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Tu me prends un peu de cours, là, Marion ? Tu sais ? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'intelligent ? Un théâtre au bord de la mer, comme ça, c'est bien.
Avec des sièges qui pourraient accueillir les personnes grosses, des rampes pour les personnes en fauteuil roulant.
Je rêve d'un théâtre qui soit ouvert sur la ville.
Je vois le théâtre comme une agora, un vrai lieu de partage en fait. Un lieu où on se rencontre, un lieu où on débat autour des œuvres sur lesquelles on voit, où on puisse discuter, échanger, se raconter les émotions diverses qui nous traversent. Un lieu où on puisse s'opposer, mais avec animation, mais dans la joie.
Je rêve d'un théâtre ouvert à tous.
Un théâtre qui accueillerait
les enfants, les adolescents, les adultes, les anciens. Un théâtre qui parfois saurait sortir de ses murs et aller à la rencontre aussi des habitants. Un théâtre, peut-être on peut dire, plus inclusif aussi, qui irait à la rencontre des personnes porteuses de handicap. Ce théâtre existe peut-être.
Un théâtre qui enchante la vie.
Il y a peut-être l'idée aussi de recycler certains spectacles et de ne pas forcément initier tout le temps des nouvelles choses, mais de repartir sur des décors, sur des récits, sur des imaginaires qui ont déjà été traités par des chorégraphes, des metteurs en scène, et réutiliser, recycler des imaginaires.
De quel théâtre je rêve? D'un théâtre un petit peu ancien, en bois, qui grince un peu, avec des fauteuils très très confortables, où on est bien installé, d'une scène un petit peu penchée à l'ancienne, avec un haut de scène très très élevé et qui m'impressionne et qui me fasse un petit peu rêver.
Pour avoir un théâtre du futur, un beau théâtre par exemple, il faudrait qu'il y ait encore une planète pour avoir ce théâtre. Donc il faudrait qu'on arrive à prendre soin de notre planète pour qu'elle puisse arriver. Non, mais qu'on puisse garder de tels rythmes en fait, de création, de diffusion. Il faudrait qu'on puisse avoir que ce soit encore une priorité de soutenir la création artistique pour en pouvoir programmer des spectacles. Pour moi, il y a de là la question de est-ce que on sera encore sur une planète qui puisse permettre de soutenir la création, que ce soit une priorité, la culture.
Non, ma fille, vous n'irez pas danser est une série en 6 épisodes produite par la Maison de la Danse de Lyon, imaginée et écrite par Marion Coutel et co-réalisée avec Nuit Noire, studio de création sonore immersive.